L'Esprit Saint, nous abordons aujourd'hui ce qu'on a appelé les dons spirituels de manifestation. Manifestation. On a déjà parlé des dons de motivation de service. Motivation. On a parlé de la prophétie, du service, enseignement, encouragement ou exhortation, le don de donner, le don de générosité, le don d'administration, de gérer, et le don de miséricorde. Ça, c'était une première série de dons qu'on trouvait dans Romains 12, dans l'épître de Paul aux Romains. Et la semaine dernière, nous avons parlé des dons de maturation, qui sont en fait des ministères donnés par le Seigneur pour construire son Église. On a parlé des dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs enseignants. Et aujourd'hui, nous abordons les dons les plus spectaculaires. On appelle les dons de manifestation, les dons de signes. Ils donnent aux autres dons une dimension miraculeuse. Et ça permet à ces premiers dons de porter davantage de fruits. J'aimerais qu'on se tourne ensemble dans 1 Corinthiens 12, qu'on va lire ensemble. C'est page 196 à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire les versets 1 à 11 de 1 Corinthiens 12, page 196. Paul écrit à l'église de Corinthe. Il leur dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire que Jésus soit maudit. Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Paul écrit cette première lettre aux Corinthiens pour essayer de corriger de graves problèmes qui se passent dans l'église de Corinthe. Il y avait un manque d'unité et de communion dans l'église. Il y avait des disputes, ça c'est au premier chapitre qu'on en parle. Il y avait des problèmes d'immoralité sexuelle dans le chapitre 5. Il y avait même des chrétiens qui se traînaient en justice devant la justice laïque. Ça, c'est dans le chapitre 6 qu'on en parle. Pendant la Sainte Cène, la communion, il y avait aussi des divisions. Et en fait, tous ces problèmes, on peut dire qu'ils étaient liés à l'ancienne nature pécheresse des croyants. On a déjà dit que cette vieille nature de pécheur, c'est ce qu'on appelle la chair. Et à cause de ce mot chair, on dit que ces chrétiens, on pourrait dire que ces chrétiens étaient des chrétiens charnels. Et c'est un problème, c'est une lutte entre la chair et l'esprit qui continue dans chaque croyant. C'est un peu comme quand on tire à la corde des deux côtés pour faire avancer d'un côté ou de l'autre. Et quand vous avez joué à ce jeu, peut-être, vous savez que vous appelez du renfort pour tirer du bon côté. Et là, nous ne sommes pas sans aide dans cette bataille. Jésus peut, par son Esprit Saint, nous fortifier, nous aider à tirer du bon côté. Donc, après avoir adressé cet aspect charnel des problèmes de l'église de Corinthe, Paul veut maintenant passer aux choses spirituelles. Et il commence en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, en fait, les dons, c'est entre parenthèses dans cette version. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un mot qui est ajouté par celui qui fait la traduction. Paul simplement parle de ce qui concerne les choses spirituelles. Et c'est important de ne pas prendre le Saint-Esprit comme simplement un distributeur de dons spirituels. Donc, Paul, bien sûr, va parler des dons, mais le ministère de l'Esprit-Saint, c'est bien plus que simplement des dons qu'il nous donne. Apparemment, dans l'Église, il y avait des gens qui disaient que Jésus soit maudit. C'est ce que veut dire le mot « Jésus est anathème ». Mais Paul affirme que ça ne peut pas être inspiré par l'Esprit de Dieu. Et qu'en fait, tout croyant qui dit que Jésus est Seigneur ne peut le faire que si c'est l'Esprit Saint qui parle en lui. Donc si vous savez que Jésus est Seigneur, vous savez que l'Esprit Saint est en vous. Nous avons vu qu'il y avait cette première relation de l'Esprit Saint en nous lorsque nous mettons notre confiance en lui, que nous sommes baptisés dans la nouvelle naissance, quand nous recevons la nouvelle naissance. Et puis nous avons vu qu'il y avait une autre relation qui était une façon de nous donner la puissance de servir Dieu, qui était cette relation sûre où l'Esprit venait sur nous. C'est ce qu'on peut appeler le baptême de l'Esprit Saint. Ou c'est le fait d'être rempli de l'Esprit continuellement. Et on a vu que lorsque l'Esprit Saint est sur nous, il va nous donner des dons. Il Il y a ces versets 4, 5, 6 qui sont très intéressants. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, ça part vraiment de l'unité, le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Là, au passage, c'est en fait la Trinité, le même esprit, le même Saint-Esprit, le même Seigneur Jésus-Christ, le même Dieu, Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint qui accorde les dons. C'est Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, qui administre les services. Et c'est Dieu le Père qui opère, qui donne la puissance pour que ces dons soient en opération. Donc d'un côté, une grande unité fondamentale. Et de l'autre côté, il y a cette diversité. La diversité des dons, la diversité des services, la diversité d'opérations. C'est pour ça qu'en fait, les chrétiens sont très divers. Certains des fois disent, pourquoi il y a tant d'églises différentes? Au passage, j'aime bien faire remarquer qu'il y a différents supermarchés. Il y en a qui vont à Carrefour, d'autres à Auchan, d'autres à Casino. Il y en a pas qui disent bon, bah, puisqu'il y en a tellement, je vais dans aucun de ces magasins. Et donc cette diversité, elle reflète la diversité des dons de chacun. Et les églises peuvent avoir des styles différents qui reflètent ces dons aussi. Il y en a qui vont avoir un don de service, donc il va y avoir beaucoup d'œuvres sociales. Il y en a qui vont être intéressés dans l'enseignement profond de la Bible. D'autres qui vont être plus dans ce qui est spectaculaire. Les manifestations plutôt miraculeuses. Et souvent, lorsqu'on est un homme chrétien, ça, on pense qu'il y a un endroit qui a la vérité, puis les autres, c'est pas vraiment ça. Mais ça, c'est pas du tout ce que dit Dieu. Dieu dit c'est normal. Quand on fait la liste des différents dons qu'on trouve dans le Nouveau Testament, on peut en compter à peu près 24. Donc si chaque chrétien avait un seul don, il y aurait déjà 24 catégories de chrétiens. Maintenant, si on prend des chrétiens pour avoir plusieurs dons, et si on compte les catégories différentes de chrétiens qui ont deux dons, en différenciant ceux qui ont un don en premier puis l'autre don en second et vice versa, alors le nombre, ce serait 24 multiplié par 23, c'est 552. Ça, pour les mathématiciens, c'est les arrangements où l'ordre est compte. Si on considère des chrétiens à trois dons, on arrive à 12 144. Peu importe. L'idée, c'est que la diversité, c'est normal. Ce qui compte, c'est de reconnaître que Jésus est Seigneur. Il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Qu'il a envoyé son Esprit Saint pour l'Église, qu'il va revenir. L'unité dans la diversité. Ça doit nous apprendre aussi à avoir de bonnes relations avec nos frères chrétiens qui ont peut-être des points de vue différents sur des points de détail. Le verset 7 est un verset clé. Il dit à chacun, donc à tout croyant, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu donne des dons à chacun, au moins un, pour le bénéfice de tous. Et le mot qui est traduit par manifestation, ça veut dire se révéler, s'éclairer comme s'il y avait des rayons de lumière sur l'objet. Et c'est le même mot que les frères de Jésus utilisaient lorsqu'ils lui disaient « Mais personne n'agit en secret, et si tu cherches à te mettre en évidence, manifeste-toi au monde, fais-toi connaître. » Et ça, c'est le cœur de Dieu que de vouloir se révéler aux hommes. De se montrer aux hommes. Il est même expliqué dans Philippiens 2 que Jésus, le Fils de Dieu, est venu s'incarner sur la terre en abandonnant toutes ses prérogatives divines pour se manifester. Et l'Esprit Saint, son rôle, c'est de glorifier Jésus, de révéler Jésus. Dans Jean 16, 14, page 125, on va lire à partir du verset 13, page 125, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et en fait, dans la Trinité, il y a ces relations entre les trois personnes. Et une des caractéristiques de l'Esprit Saint, c'est qu'il ne cherche jamais à mettre la lumière sur lui-même, mais à la mettre sur Jésus-Christ. Et par moments, lorsqu'on parle tellement de l'Esprit Saint dans certaines églises, l'Esprit Saint doit dire « Non, 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 c'est pas sur moi, sur Jésus, le projecteur. » Et l'incarnation que Jésus a commencée sur terre, elle continue par l'Église. Et donc, l'un des buts principaux des dons de l'Esprit, c'est de manifester la présence et la puissance de Dieu. Et un grand chrétien anglais, John Wesley, qui a commencé des œuvres des églises pour Dieu. Il disait ça, en fait, c'est parce que l'amour des chrétiens se refroidit qu'on ne voit plus la puissance des dons dans l'Église. L'Esprit Saint est aussi présent, aussi désireux de manifester Dieu dans l'Église aujourd'hui qu'il était il y a 2000 ans. Et beaucoup d'églises, en fait, ont peur de l'Esprit Saint parce qu'il y a eu des extrêmes, des choses un peu qui n'ont pas de base biblique. Comme par exemple la bénédiction de Toronto, où les gens se sont pris d'un rire incontrôlable ou commencent à aboyer, soi-disant sous l'influence de l'Esprit. Et en fait, cette puissance de l'Esprit Saint, qui est une personne, on l'a vu, de l'Esprit Saint, dans beaucoup d'églises, dans la chrétienté, bien souvent, elle est pas utilisée, elle est invisible. Pour utiliser une image, on pourrait dire, c'est par exemple un peu comme vous avez le courant électrique, vous êtes branché sur le réseau électrique de l'EDF. Dans votre maison, vous avez des prises électriques. Mais vous utilisez des bougies pour vous éclairer. Vous chauffez vos repas avec un petit butane. Vous faites un petit feu au milieu de la pièce pour vous chauffer. Vous écoutez des disques sur un vieux gramophone. Et en fait, il y a cette puissance qui est là, prête à vous aider, et vous l'ignorez. Alors que l'Esprit Saint est là parce qu'il veut manifester la puissance, la présence de Dieu parmi nous. Notre désir, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 25, où il dit « Dieu est réellement au milieu de nous. » Tout doit être fait, verset suivant, pour l'édification, c'est-à-dire pour bâtir l'Église. Et la semaine dernière, nous rappelions l'idée que les dons de l'Esprit, ce n'est pas des jouets avec lesquels on s'amusait. Mais ce sont des outils pour bâtir. Le problème aussi, on a dit que s'ils ne sont pas exercés dans l'amour, ils deviennent des armes pour se battre. Alors souvent, on dit oui, c'est vrai, je veux recevoir ces dons. Je pense que Dieu m'a donné ce don, mais j'en suis pas sûr. Comment savoir si c'est l'Esprit Saint qui nous parle? Vous vous souvenez que Pierre, l'apôtre Pierre, avait des problèmes dans ce domaine. Jésus avait demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et notre ami Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus le félicite « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Quelques minutes plus tard, après que Jésus ait annoncé qu'il doit aller à la croix, alors là, Pierre, plein de confiance, dit « Ah non, 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 à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et là, il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Parce que Jésus lui réplique « Va des rétro, Satan, annoncé par la terre. Arrière de moi, Satan !» Tu es pour moi un obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Alors comment parle l'Esprit Saint? Il est dit dans Romains 8, 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelque part dans notre esprit, on sent que c'est un témoignage de l'Esprit Saint. Bien sûr, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et c'est ce qui a manqué à Pierre, qui a répondu tout de suite dans la chair. Un autre passage dans Colossiens 3.15 nous dit qu'un des tests, c'est qu'on a la paix du Christ qui règne dans nos cœurs, qui fait l'arbitre. Donc on se sent appelé peut-être à aller parler dans la rue. En fait, on a la paix. On se dit, oui, je vais le faire. Un autre passage dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 19, on peut s'y tourner, 1 Roi 19, c'est au début du Nouveau Testament, page 369. Oui, l'Ancien Testament. Le prophète Élie vient de remporter une grande victoire sur les prophètes de Baal. Mais il a peur de Jézabel, la femme du roi. Et là, verset 9, il est dit, là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit, verset 9. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fit traverser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Verset 11 dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Oui. Verset 12, après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Ce son doux et subtil, on le traduit aussi par le bruit d'un léger souffle. Ça nous rappelle qu'en fait, c'est vrai, Dieu peut parler comme il le veut. Il pourrait prendre une trompette et annoncer à toute la terre que son fils est mort pour leur péché. Il nous a donné ce travail à faire. Mais c'est dans le silence de son cœur qu'on entend Dieu. Et ça nous explique, ça nous encourage pour rechercher la voix du Maître, on dirait. D'abord à nous imprégner de la parole de Dieu. Si on lit la parole de Dieu en tant que chrétien de nouveau, l'Esprit Saint nous parle. Vous apprenez les voies de Dieu, les principes par lesquels il agit. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du jeune Samuel qui était chez Élie, un grand prêtre. Et Samuel pensait que Élie l'avait appelé, alors il se levait et il disait: tu m'as appelé? Elle dit: non, non, retourne te coucher. Ça arrivait encore deux fois de suite. Tu m'as parlé, Élie? Non, non, va te coucher. Finalement, Élie réalise que c'est sans doute l'Éternel qui a voulu parler à Samuel et lui dit: la prochaine fois que tu entends cette voix, dis: parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et dès qu'il fait ça, c'est là que l'Éternel lui communique un message. Et donc, connaître la parole de Dieu, prier pour savoir si quelque chose qu'on a envie de faire vient bien de lui. Puis une chose formidable, c'est de pouvoir commencer à exercer un don. Dans un environnement favorable. C'est-à-dire en petit groupe. Dans une réunion de prière. Voir si les autres chrétiens encouragent et confirment ce don. Il faut être prudent, mais pas timide. Paul disait à Timothée: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. And wisdom. Et une chose aussi qu'on a déjà vue, qu'il est bon de se rappeler, c'est que Dieu veut nous bénir avec l'Esprit Saint. Et si on lui demande de donner l'Esprit Saint, de recevoir des dons de l'Esprit Saint, Luc et Matthieu nous disent, par exemple dans Luc 11, verset 11, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Le petit enfant qui veut un œuf dur et son papa lui donne un scorpion bien dur. Tiens, régale-toi. Et Jésus continue en disant, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? On n'a pas à avoir peur de l'Esprit Saint. Nous allons aborder les différents dons dont il est question. Donc revenons à 1 Corinthiens 12. Page 196, verset 8, Paul explique, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Et pour la commodité de l'étude, on peut regrouper ces neuf dons dont il est question en trois groupes de trois. Il y a des dons qui vont de pair avec la proclamation de la parole. C'est ce qu'on appellera la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. La prophétie, on l'amène dans ce groupe pour parler des dons qui aident la parole. Puis il y a ce qu'on pourrait appeler des dons pour l'action. La foi, les guérisons et l'opération des miracles. Et puis il y a des dons qui sont importants dans la relation de prière avec Dieu. Ce sont les langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Aujourd'hui, on va juste commencer par ces dons qui accompagnent la parole. D'abord, la parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est pas la sagesse dans sa plénitude. On pourrait dire que c'est une expression momentanée de cette sagesse divine. Que Dieu nous donne pour prendre des décisions excellentes. Pour résoudre des problèmes difficiles. Pour répondre à des questions difficiles, pour réfuter des arguments. La sagesse, on a dit aussi que c'est la connaissance correctement appliquée. Knowledge. Par exemple, on peut avoir entendu parler de la pesanteur, de la fraction de la terre. Ça, c'est la connaissance. Gravity. Mais ça, c'est la connaissance. La sagesse, ce sera de ne pas se mettre à la fenêtre et de voir si on peut marcher dans l'air. Et souvent, il y a cette idée il y a des personnes qui peuvent avoir un génie dans la recherche scientifique et manquer totalement de sens pratique. Ils ont beaucoup de connaissances, mais peut-être peu de sagesse pratique. Et donc la parole de sagesse, ça va être la vérité avec un grand V qui est appliquée aux besoins d'une personne ou d'une situation. Et souvent, ça va se manifester par un conseil, quelque chose de très pratique qu'on peut faire. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples célèbres. C'est le fameux jugement de Salomon, qui est une expression de cette parole de sagesse. Si vous vous souvenez de l'histoire, il y avait deux femmes prostituées qui avaient eu des bébés, venaient d'accoucher. Et pendant une nuit, une des mères avait étouffé son bébé. Elle avait échangé son bébé mort avec le bébé vivant de l'autre. Et le roi Salomon se retrouve devant ce dilemme, savoir à qui est l'enfant qui est vivant. Parce que bien sûr, les deux mamans s'accusent les unes les autres d'avoir tué leur propre bébé et pris l'autre bébé vivant. Mais Salomon avait demandé à Dieu qu'il lui donne la sagesse. Et là, on voit soudain qu'il a un éclair de génie. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse, qui apporte une solution formidable à ce problème. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, apportez-moi votre épée. Prenez-moi votre couteau électrique, on va le couper bien au milieu et on en donnera un morceau à chacun, à chacune. Et là, bien sûr, la vraie maman préfère laisser la vie sauve à son bébé, elle est prête à le perdre. Elle dit non, ne le coupez pas, donnez-le à l'autre. Et Salomon sait qui est la vraie mère. Ça, c'est la parole de sagesse. Dans le Nouveau Testament, on trouve beaucoup d'exemples de ce don appliqué par Jésus-Christ. Et en fait, la plupart des œuvres de Jésus sur la terre ont été faites par l'intermédiaire de ces dons de l'Esprit. Il s'est dépouillé de ses prérogatives divines lorsqu'il est venu s'incarner. Mais l'Esprit Saint est venu sur lui à son baptême, comme sous la forme d'une colombe. Et on voit chez lui tous les dons, sauf celui des langues et celui de l'interprétation des langues. Et en particulier cette parole de sagesse. Si je vous dis l'impôt à César, vous vous rappellerez de la situation. Non, Caesar's tax. Ses adversaires ont décidé de le coincer. Et il y en a un qui pense qu'il a une question géniale. Ils vont vers Jésus, très, très hypocrite, très doucereux, et ils lui demandent est-ce qu'il est permis ou non de payer les impôts à César. Et en fait, apparemment, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Parce que s'il répond oui, ils vont l'accuser d'être un collabo, qu'il est pour les Romains, l'envahisseur, donc il ne peut pas être le Messie. S'il dit non en public, alors ils le tiennent parce qu'ils vont aller le dénoncer aux autorités romaines comme encourageant les Hébreux, les Juifs à la révolte contre Rome. Mais ça, c'est sans compter la parole de sagesse que l'Esprit donne à Jésus. Et ça vient instantanément, dans le besoin, en plein dans la situation. Ce souvent on a des en dehors de ces dons spirituels, on se dit ah si j'avais su j'aurais répondu ça. Ce qu'on appelle la réponse de l'escalier. Lorsque les gens sont perdus, on partit de chez nous, on est sur l'escalier, on dit ah zut si j'avais dit ça, ça leur aurait cloué le bec. Mais tout de suite, ça vient à Jésus de dire « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ?» Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les impôts. Il lui montre un denier, donc une pièce d'argent. Il leur demande de qui est cette inscription ? Qui est sur c'est la photo de qui là? Et là ils sont obligés de répondre César. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Oh.
Le bec cloué. Il est dit qu'étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. La queue basse, on ajouterait. Et Jésus nous promet de nous donner cette parole de sagesse. Dans Luc 21, page 96 dans la Bible à la Colombe, Jésus promet à ses disciples des persécutions et le fait qu'ils vont passer devant des tribunaux, mais il les encourage. Et page 96, au verset 12, il leur dit avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Et ça, c'est un don très important pour tous ceux qui essayent d'encourager les autres, de conseiller. Ceux qui font ce qu'on appelle la cure d'âme, c'est-à-dire d'encourager les personnes qui ont des difficultés avec la parole de Dieu. Quand des chrétiens ont des questions sur les décisions qu'ils doivent prendre, peut-être une parole de sagesse peut nous permettre de les aider. Pour l'évangélisation, c'est très, très important. Les gens contredisent ce qu'on peut annoncer, disent des arguments et on peut les réfuter sans avoir jamais pensé à cette question. L'Esprit Saint peut nous donner un raisonnement ou une idée qui les convainc. Et donc quand on demande ce don, c'est pas dans l'idée de dire ah je vais pouvoir clouer le bec à tous ceux qui m'embêtent. Encore une fois, c'est pour annoncer le Seigneur et le faire connaître tel qu'il veut se manifester.
Again,
Il y a l'autre don, c'est la parole de connaissance. Là encore, c'est recevoir de façon surnaturelle des informations précises dans le but de la prière ou du service. Ce don, ça manifeste une des caractéristiques de Dieu, qui, on l'a vu le mercredi en ce moment, on étudiait ça, une des caractéristiques ou un des attributs, c'est qu'il est omniscient. Dieu sait tout. Et comme il sait tout, il peut nous partager, peut nous faire partager certaines de ses connaissances. Ça peut être des vérités qu'on trouve dans la Bible, que l'Esprit Saint va utiliser pour toucher en plein dans le mille une situation, devant une situation, on va dire quelque chose venant de la Bible qui va vraiment répondre à la préoccupation ou à la situation. Et ce sont des dons pour lesquels je prie quand je prêche, quand j'annonce la parole. Et c'est toujours encourageant lorsqu'après après le dimanche matin, quelqu'un me dit, mais ce que tu as dit là, à ce moment-là, ça m'a vraiment touché, ça a répondu à une question, ça m'a encouragé à faire quelque chose. Et souvent, c'est quelque chose que je n'avais même pas pensé de dire dans ma préparation. Mais encore une fois, ça, ce genre de choses, ça manifeste la présence de Dieu parmi nous. Des fois, ça peut être une information surnaturelle aussi sur une situation, sur une personne. Qui révèle qu'il y a un besoin de prière pour cette personne ou pour une action donnée. C'est comme lorsque Jésus expliquait à la Samaritaine que celui qui boirait de cette eau encore, alors qu'elle puisait du puits, aurait encore soif, mais que celui qui viendrait boire de l'eau que lui avait allait leur donner n'aurait jamais plus soif. Et que cette source d'eau deviendrait, cette source d'eau jaillirait jusqu'à la vie éternelle. Dieu n'a jamais rencontré cette femme, Jésus n'a jamais rencontré cette femme, il a cette parole de connaissance et il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire, tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq et celui avec lequel tu vis n'est même pas ton mari en ce moment. Boum. Elle se sent transpercée en plein dans le mille. Jésus a obtenu son attention. Il va pouvoir faire un réveil dans la ville par cette femme. Ça, c'est combiné aussi au don de prophétie de Jésus. Parce que la femme lui répondit, je vois que tu es un prophète. Et donc, c'est un don remarquable lorsqu'on enseigne, parce que ça, on pense que le message s'adresse directement à moi. It's applying to ourselves. Et j'ai vécu ça d'un côté et de l'autre, mais quand je me souviens le pasteur prêcher. J'avais l'impression qu'il me parlait directement.
Mmh.
ou qu'il me mettait en garde contre un danger auquel je m'exposais.
Wow.
On a envie de suivre le Seigneur et de ne pas faire de bêtises. Finalement, il y a ce don de prophétie dont on a parlé dans Romains 12 et Éphésiens 4, 11. C'est une parole inspirée par Dieu de façon à faire briller la lumière sur une personne ou un problème. Et par manque de temps, je crois qu'on va terminer ici. On va simplement rappeler que dans l'Ancien Testament, c'était souvent la prédiction, l'aspect de dire ce qui va arriver dans le futur. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus souvent la proclamation de la vérité qui a déjà été révélée. C'est un nom très important qui peut encourager l'Église à aller de l'avant. Et on l'étudiera davantage la semaine prochaine. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ces dons, ce n'est pas des choses pour l'église de Corinthe ou l'église du passé. Et que Dieu nous les donne pour bâtir l'église. Et si on ne les utilise pas, ce n'est pas étonnant que l'église ne soit pas bâtie encore en France. En France ou en Europe. Prions. Seigneur, merci pour ces dons que tu veux nous donner, Seigneur. Merci que ta parole nous montre qu'ils n'ont rien d'inquiétant. Mais qu'au contraire, Seigneur, il nous faut les désirer ardemment. Seigneur, je prie que chacun de nous, Seigneur, ait à cœur de rechercher par la prière, par la lecture de ta parole, par l'exercice. Que chaque membre du corps que représente cette Église, Seigneur, puisse fonctionner. Seigneur, aide-nous à recevoir ces dons pour bâtir ton Église, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que c'est toi qui bâtis ton Église. Nous ne sommes que des ouvriers avec toi, Seigneur. Béni sois-tu. Nous prions toutes ces choses par le nom de Jésus. Amen. Amen. Et